Voilà, nous arrivons déjà et Fabienne Saintès se prépare parce que j'ai l'impression que ce soir il y a des gros dossiers. On évoquait le fait de bien comprendre les choses pour surmonter la peur. Eh bien, je vous invite à écouter l'antenne de France Inter où il est 18h. Bonsoir Fabienne Saintès.
Comme tout cela est bien dit, bonsoir Charline et les amis, merci beaucoup. À demain pour nous, c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Bien sûr, nous sommes en édition spéciale, un tournant dans l'histoire de l'Europe que cette guerre déclenchée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Ce sont les mots du président de la République, on en parle pendant 2 heures avec nos invités et aussi avec vos questions. C'est parti. Et pour démarrer, et bien mettre les choses à plat, le journal de 18h sur France Inter, présenté par Sébastien Logénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel, bien sûr, commence par les premiers soldats russes déployés sur le sol ukrainien.
Oui, les forces russes parachutées ce soir par hélicoptère sur un aéroport près de Kiev, face à face avec l'armée ukrainienne. Premier jour de guerre, avec des habitants saisis d'effroi à l'aube ce matin. Des bombardements ont eu lieu sur tout le pays, du nord au sud. Il y aurait des dizaines de morts selon Kiev. Moscou, de son côté, d'une visée que des infrastructures militaires, 74 installations détruites selon l'armée russe. Nous serons sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux pour nous raconter les premières heures de ce conflit. Nous ferons aussi le bilan humain, militaire. Nous irons à Moscou avec les premières voix qui s'élèvent contre la guerre en Russie. Les pays limitrophes de la Russie également s'inquiètent. L'un des pays baltes, la Lituanie, a déclaré l'état d'urgence. Nous y serons. Et ce soir, toute la communauté internationale se mobilise. Réunion du G7, sommet des dirigeants européens et parmi eux Emmanuel Macron qui s'est adressé aujourd'hui aux Français. Un conflit, dit-il, qui aura des conséquences durables sur nos vies. Nous l'entendrons dans ce journal.
Et à partir de 18h15, Sébastien, tout au long d'un jour dans le monde avec nos invités, nous essaierons d'aller dans les plis de cette crise, de cette guerre. Les attaques, les armées, les sanctions, les conséquences, y compris pour nous, les Européens. Et puis bien sûr, vous aurez la parole à partir de 19h20. Vous avez des questions, c'est bien normal, sur cette guerre à nos portes. Nous essayons d'y répondre. Vous pouvez commencer à appeler au 01 45 24 7000.
France Inter.
Et donc Sébastien, c'est toute l'Ukraine qui, ce soir, est sous le feu de l'armée russe.
Une opération militaire lancée en pleine nuit par Vladimir Poutine sous couvert de ramener la paix dans le Donbass. Il était 4h30 du matin ce jeudi 24 février quand les premières explosions ont retenti aux abords de Kiev, la capitale. 15 minutes après seulement, c'était Mariupol au sud du pays qui était visé. Même chose 10 minutes plus tard à l'est du territoire. Une opération d'envergure qui déborde largement le territoire du Donbass. Nous sommes maintenant une quinzaine d'heures après le début de cette offensive lancée par Vladimir Poutine. On reviendra dans un instant sur le bilan humain, militaire de cette première journée de combat. Mais d'abord, rejoignons sur place nos envoyés spéciaux. Une journée de panique pour les civils ukrainiens. C'est le récit de Thibault Lefebvre sur les routes au centre du pays.
La fuite vers l'ouest pour les dizaines de milliers de civils qui ont fait leur bagage à la hâte, ont pris leur voiture et ont fui cette terre russophone que le Kremlin ne cessait de présenter comme des territoires acquis à sa cause. Tous ces véhicules au pas sur des kilomètres et des kilomètres sur le réseau de routes parallèles très abîmées avec de nombreux trous et un macadam inexistant par endroits prouvent le contraire. Les habitants du Donbass et plus généralement de l'est du pays fuient leurs terres et nous les suivons depuis ce midi par choc contre par choc entre les champs de terre brune et les villages paysans. Alors jusqu'où? C'est la question. Les territoires russophones s'arrêtent à Dniepro, c'est au centre de l'Ukraine. Certains n'iront pas plus loin. Et puis ensuite, il y a Kiev, Lviv et surtout l'Europe, la Pologne ou la Roumanie qui, pour la majorité des déplacés que nous avons interrogés, est aujourd'hui l'objectif. Plus d'un millier de kilomètres à moins de 40 km/h, ça fait loin, mais ce soir, il est évident que l'est de l'Ukraine se vide.
Thibault Lefebvre avec Jérémy Thuil sur les routes au centre de l'Ukraine. On l'entendait, les civils pris au dépourvu se sont littéralement jetés sur les routes pour tenter de fuir les bombardements, provoquant des embouteillages monstres sur tous les grands axes routiers. Des habitants qui, pour d'autres, sont restés dans leur ville, faisant la queue devant les magasins de nourriture, les pharmacies, les stations essence. Écoutez cette Ukrainienne, Hélène, qui, elle, hésite à partir.
Ce matin, il y avait vraiment beaucoup d'embouteillages parce que tout le monde voulait quitter Kiev et il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent quitter, même pays, aller à l'étranger. Et je viens de parler avec ma mère. Elle a dit que peut-être on va faire quelque chose, on va acheter des billets d'avion pour pouvoir partir chez elle. Mais je sais pas parce que vous savez, je sens la responsabilité devant mon pays que peut-être je peux faire quelque chose. Je ne peux pas quitter mon pays qui est dans la situation de la guerre. Peut-être ce sera pas correct de le quitter dans cette situation et c'est pour cela que je sais pas vraiment quoi faire.
Voilà, Hélène, habitante de Kiev, avec Olivia Chandiou.
Et l'armée russe, elle, Sébastien, dit ne pas vouloir viser les civils.
Ils n'ont rien à craindre, dit le Kremlin. L'opération vise d'abord des sites militaires ukrainiens. L'objectif affiché officiellement est d'imposer à ce stade une démilitarisation de l'Ukraine afin qu'elle devienne un pays neutre, dit plus crûment par les Américains. L'offensive russe vise à décapiter le pouvoir à Kiev. Bonsoir Victor Moria.
Bonsoir.
On va faire le point avec vous sur la situation militaire. Malgré les discours entre guillemets rassurants à Moscou, c'est une guerre de très grande ampleur que mènent les forces russes, utilisant tous les moyens aériens, terrestres, maritimes, et avec ce soir l'arrivée des premiers soldats russes en territoire ukrainien.
Oui, l'infanterie russe a conquis l'aéroport militaire de Gostomel, situé à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Kiev. Tous les services publics y sont d'ailleurs fermés. Seules les stations de métro restent ouvertes en permanence pour servir d'abri en cas de frappe. Actuellement, les forces russes avancent sur trois grands axes, l'un à l'est donc depuis les régions séparatistes du Donbass, Donetsk et Louhansk. Plusieurs frappes aériennes y ont été recensées à Donetsk, Mariupol ou encore Kharkiv. Le deuxième se trouve au nord. Selon les gardes-frontières ukrainiens, les forces russes ont pénétré dans la région de Kiev depuis la Biélorussie pour mener une attaque sur des cibles militaires. Selon le président ukrainien, les forces russes tentent de s'emparer du site de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl dans cette région. Enfin, le troisième axe de tension est le sud, où les offensives russes partent depuis la Crimée jusqu'à la frontière moldave. C'est là que se trouve la Transnistrie, une région russophone dont Moscou prétend défendre l'identité. Enfin, pour ce qui est du bilan humain, c'est un bilan aussi incertain que provisoire. Ce matin, à la mi-journée, la présidence ukrainienne annonçait plus de 50 morts dans les rangs militaires et civils, mais aussi des dizaines de blessés.
Victor Moria, de la rédaction internationale de Radio France. Alors, comment cette guerre est-elle vécue aussi côté russe? Impossible de savoir ce soir si la population soutient ou pas la fuite en avant de son président, Vladimir Poutine. Et quand bien même elle envisagerait de manifester son opposition, les autorités russes ont promis de réprimer tout rassemblement contre la guerre. Des dizaines de manifestants anti-guerre ont d'ailleurs été arrêtés aujourd'hui à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Malgré tout, une voix dissonante a réussi à se faire entendre aujourd'hui, celle d'Alexeï Navalny, le principal opposant au maître du Kremlin, incarcéré, menacé à nouveau de 15 ans de prison. Et ce matin, lors d'une audience, il a pris la parole, enregistrée en cachette par ses soutiens. On l'écoute.
Je suis contre cette guerre. Je pense que cette guerre est conçue pour détourner l'attention des problèmes de la Russie et cela ne mènera qu'à un appauvrissement plus grand. Je considère que ceux qui ont déclenché cette guerre sont des bandits et des voleurs et je me suis justement engagé en politique pour combattre ce régime criminel. Cette guerre fera un grand nombre de victimes, gâchera des vies et poursuit la politique d'appauvrissement des citoyens russes.
Alexeï Navalny, lors d'une audience à Moscou. Cette guerre menée par la Russie contre l'Ukraine déborde largement les frontières de ces deux pays. C'est toute l'Europe de l'Est qui tremble en ce moment. Les pays limitrophes comme la Pologne, la Roumanie s'attendent à devoir accueillir des milliers de réfugiés. Des centres d'accueil s'apprêtent à ouvrir leurs portes. Et puis plus au nord de l'Ukraine, il y a les pays baltes annexés à l'époque soviétique, aujourd'hui indépendants, et qui craignent désormais pour leur propre sécurité. La Lituanie a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays aujourd'hui. Sur place, Marielle Vituro.
Oui, en effet, la Lituanie, qui a 1000 km de frontière avec la Russie et la Biélorussie, vient de décréter l'état d'urgence pour mieux les contrôler, pour mieux les surveiller. Ici, les craintes sont très présentes car Vladimir Poutine a menacé de représailles tous les pays qui s'engagent auprès de l'Ukraine et la Lituanie est un de ceux-là. Vilnius a fourni des armes à l'Ukraine, des lance-missiles, mais aussi une importante aide humanitaire. Depuis quelques semaines, les dirigeants lituaniens demandent des renforts à l'OTAN. Des militaires allemands et américains viennent d'arriver en Lituanie. Depuis ce matin, c'est la sidération dans le pays. La solidarité avec l'Ukraine est forte. Des appels aux dons se sont relayés sur les réseaux sociaux toute la journée. Les drapeaux bleus et jaunes s'affichent partout. Et plusieurs milliers de personnes se sont réunies maintenant en soutien devant le Parlement. Les slogans contre Vladimir Poutine sont rageurs. Et ce soir, lors de la réunion des chefs d'État à Bruxelles, le président lituanien demandera de donner des perspectives européennes claires à l'Ukraine.
Voilà, Marielle Vituro en direct de Vilnius, la capitale lituanienne. La sécurité de toute l'Europe est ce soir ébranlée, mais c'est aussi toute l'économie internationale qui panique. Un jeudi noir sur les bourses du monde entier. Chute à Wall Street aux États-Unis, moins 4% à la baisse à Francfort, à Paris et à Londres. Les prix du baril de pétrole ont dépassé les 100 dollars pour la première fois aujourd'hui depuis 2014. Même inquiétude sur les cours du blé, 344 euros la tonne, un niveau record en Europe. Ces inquiétudes économiques, énergétiques aussi, avec l'importance du gaz bien sûr russe, elles seront au cœur de plusieurs réunions internationales aujourd'hui et demain. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Grosse pression diplomatique sur Moscou. En effet, les 7 pays les plus riches, le G7, s'est réuni aujourd'hui. Conseil européen ce soir des 27 dirigeants européens et réunion de l'OTAN demain. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Christian, de ces réunions?
Écoutez, à l'ONU, le Conseil de sécurité doit examiner et voter une résolution sur la guerre en Ukraine d'ici demain et condamner l'offensive russe. Et forcément, la Russie, membre permanent, utilisera son droit de veto. On verra alors si la Chine, qui refuse de parler d'invasion, rejoint le camp de Moscou ou s'abstient. En attendant, les leaders du G7, dans un communiqué, rendent responsable Vladimir Poutine d'avoir réintroduit la guerre sur le continent européen et d'être du mauvais côté de l'histoire. Les membres du G7 se disent prêts à agir pour éviter les perturbations sur les marchés énergétiques, notamment celui du gaz, secteur où la Russie représente 40% du marché européen. À la réunion du sommet de l'UE à Bruxelles ce soir, il sera évidemment question des sanctions contre la Russie qui seront absolument massives, confirme le Quai d'Orsay. Enfin, à l'OTAN, c'est aussi le branle-bas de combat. Sa force de réaction rapide de 40 000 soldats a été mise en alerte et le plan de défense graduée de l'organisation militaire, qui compte 5 niveaux, a été officiellement activé.
Christian Chesneau de la rédaction internationale de Radio France. Toutes les grandes capitales depuis ce matin condamnent l'offensive lancée par le Kremlin, à commencer bien sûr par Kiev. Un nouveau rideau de fer sépare désormais la Russie du reste du monde pour le président Zelensky. Attaque injustifiée pour l'Américain Joe Biden qui doit à nouveau s'exprimer ce soir. Seul pays à refuser toute critique pour le moment, mais Pékin qui dit comprendre les préoccupations de Moscou. Emmanuel Macron lui a pris la parole à la mi-journée. Une adresse solennelle à tous les Français. Depuis l'Élysée, bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
4 minutes de discours pour condamner la Russie, justifier sa politique et tenter de préparer les Français.
Et derrière lui, 3 drapeaux français, européens et ukrainiens et un ton grave.
Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes. Sur nos vies.
L'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité en Europe depuis des décennies, poursuit Emmanuel Macron, qui promet une réponse forte des Occidentaux.
Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse.
Le discours se veut ferme et protecteur. Le président dit sa détermination à nous protéger sans relâche et il défend son action.
Nous avions anticipé ensemble cette crise. En menant un dialogue exigeant et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter.
Volontarisme diplomatique qui n'a donc pas suffi, mais que l'Élysée continue de mettre en avant.
Très bien, merci beaucoup.
La chose est rare, la présidence diffuse sur ses réseaux une vidéo de l'ultra-secret Conseil de Défense Nationale. Une petite minute, rien de stratégique bien sûr, mais un signe de la volonté d'Emmanuel Macron de garder la main. Il recevra demain François Hollande et Nicolas Sarkozy dans un souci, nous dit ce soir l'Élysée, d'union nationale.
Et puis ajoutons, Simon, qu'un message du président Emmanuel Macron sera lu demain officiellement devant l'Assemblée nationale et le Sénat à 14h30 précise, avant un débat au Parlement mardi prochain. La guerre en Ukraine aux portes de l'Europe. On y revient toute la soirée avec vous, Fabienne, dans un jour dans le monde et dans le téléphone sonne. Et puis une dernière info en politique, hors de cette actualité liée au conflit en Ukraine. À une semaine du dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel, on a appris ce soir que Jean-Luc Mélenchon avait obtenu ses 500 signatures. Il en reste 86 à trouver pour Marine Le Pen et 85 pour Éric Zemmour.
Merci beaucoup Sébastien Eugénie. Vous le disiez, on est en édition spéciale dans ce 18-20. On va tâcher de tout mettre sur la table, bien comprendre ce que nous avons devant nous jusqu'à 19h. Et puis toutes vos questions sont les bienvenues dans le téléphone. Sonne à partir de 19h20 au 01 45 24 7000. On garde quand même un œil sur le ciel.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et Jean-Pierre Hameau, bonsoir. Demain, retour progressif de l'anticyclone des Açores.
Oui Fabienne,
enfin,
du coup vous allez...
Comment ? Enfin, une bonne nouvelle, je disais.
Ça, c'est une bonne nouvelle. On va profiter de belles éclaircies demain matin sur une bonne moitié sud du pays, excepté sur le massif pyrénéen et son piémont, qui conserveront une couverture nuageuse assez importante. Et pour la moitié nord, le ciel sera plus nuageux en matinée, avec quelques averses de pluie, voire de neige sur le massif vosgien au-dessus de 400 mètres d'altitude. Et puis, l'après-midi, vous retrouverez un temps légèrement instable vers le centre-est et le nord-est, avec quelques averses, parfois sous forme de giboulées. Ça restera nuageux sur les Pyrénées et partout ailleurs, le sol. Le soleil va s'imposer. Mistral et Tramontane vont souffler entre 70 et 80 km par heure. À noter le retour de faibles gelées en fin de nuit dans le nord-est et le centre-est du pays. Et puis les maximales évolueront entre 9 et 17 degrés du nord au sud.